L'heure de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Comment éviter le décrochage de la recherche française? C'est là tout l'objectif de la loi qui doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais qui laisse encore sceptique une très large partie de la communauté scientifique.
Le gouvernement a présenté ce matin les grandes lignes de son plan en faveur de l'inclusion numérique.
Oui, une problématique importante et surtout largement amplifiée ces derniers mois par les mesures de confinement.
C'est aujourd'hui le deuxième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Magali Della Souda, chargée de recherche au CNRS. À l'étranger, nous irons tout d'abord aux États-Unis où plus de 80 000 plaintes pour abus sexuels ont été déposées contre les scouts. Enfin, nous irons à Bruxelles pour un conseil des affaires qui s'annonce laborieux à l'heure de débloquer le fameux plan de relance massif de l'UE. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Fausses nouvelles et théories du complot, la guerre des récits, voilà ce que nous allons vous raconter à la fois notre besoin de récits et les dangers, les dérives aussi possibles de ces contre-vérités avec nos deux invités. Le professeur en littérature Pierre Bayard et le journaliste documentariste Thomas Huchon qui seront avec nous dans une vingtaine de minutes.
Parce que le constat est non seulement unanime, mais aussi embarrassant et plus encore préoccupant, notamment en ces temps de pandémie. C'est peu dire que la loi de programmation pour la recherche qui doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée était attendue par la communauté scientifique. Face au manque de financement des laboratoires, mais aussi l'érosion des emplois liés en partie aux faibles rémunérations, ce texte est censé redonner des moyens à la recherche. Et pourtant, loin de déclencher l'unanimité, cette loi essuie au contraire moult critiques. De nombreuses instances collectives ont notamment émis des doutes sur l'effort budgétaire réel, mais aussi sur plusieurs dispositions touchant au métier même de chercheur, sans parler d'une disposition intégrée à ce projet de loi, un délit d'entrave à l'université. En clair, les intrusions de personnes extérieures dans les universités pour y semer le trouble seront bientôt sanctionnées. D'où la sonnette d'alarme tirée en particulier depuis la fac de droit de Saint-Étienne, où les juristes sont aujourd'hui vent debout contre ce que pourrait impliquer cette loi pour l'université. C'est un reportage signé Céline Autain.
Depuis quelques jours, Étienne Cornu, professeur de droit privé à Saint-Étienne, participe à l'opération Écran Noir.
Nous, les enseignants et enseignants-chercheurs, nous devons assurer l'ensemble de nos cours à distance. Et donc, l'écran noir consiste à dire « nous faisons pas cours, nous coupons le son et l'image pendant cette période-là ».
Un moyen de dénoncer la précarisation accentuée par la nouvelle réforme, selon lui. Et il est loin d'être le seul à Saint-Étienne. Le doyen de la faculté monte aussi au créneau. Baptiste Bonnet s'inquiète notamment des 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende prévues en cas d'occupation des facs.
Évidemment, moi, en tant que doyen de faculté, je suis contre les occupations sauvages. Mais alors ici, créer un délit d'entrave est une chose très dangereuse, qui n'est pas du tout balisée. On ne voit pas du tout où est-ce que ça peut mener. Il y a trop de choses dans cette loi qui peuvent avoir des conséquences lourdes et qui n'ont pas été réfléchies, négociées, concertées.
D'habitude plutôt silencieuse, sa fac de droit se retrouve donc à l'avant-poste de la contestation et c'est un signe inquiétant.
Si les juristes et si les facultés de droit aujourd'hui disent attention, la manière d'envisager l'université, les réformes qui sont en train de se mettre en place sont dangereuses pour le service public de l'enseignement supérieur, il faut effectivement être inquiet.
Au nom de la faculté, il s'apprête avec ses professeurs à voter une motion contre la réforme.
Eux saluent un premier pas, mais demandent un effort durable. Ce sont les syndicats de l'enseignement. Après les mesures de revalorisation annoncées hier par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, 400 millions d'euros pour revaloriser les salaires des professeurs, soit 100 euros net de plus par mois, mais uniquement pour les plus jeunes d'entre eux, soit un tiers seulement des enseignants titulaires, sans compter que cette prime d'attractivité sera dégressive sur les 15 premières années de la carrière des enseignants. En revanche, et pour tous les personnels, cette fois-ci, une prime d'équipement informatique de 150 euros sera versée chaque année. Voilà qui nous conduit tout naturellement à la question de la transition numérique. Ce matin, le gouvernement a annoncé le déploiement de nouvelles mesures pour financer, financées par l'enveloppe de 250 millions d'euros figurant dans le plan de relance. Plus exactement, Catherine Pétillon, les autorités entendent favoriser la formation et le recrutement de 4000 conseillers numériques sur l'ensemble du territoire.
Il faut dire que la pandémie a mis en lumière l'exclusion numérique jusqu'ici relativement peu traitée par les pouvoirs publics, alors que 13 millions de personnes sont éloignées du numérique. Avec le plan de relance, les sommes dédiées à leur meilleure inclusion sont inédites, 250 millions. Ils serviront à plusieurs choses, la formation et le recrutement de conseillers numériques, un soutien renforcé au lieu de médiation et des outils sécurisés à destination des aidants. L'essentiel de ce budget, 200 millions, sera dédié à l'embauche de 4000 nouveaux conseillers. Ils auront vocation à proposer des ateliers d'initiation au numérique et pourront être accueillis dans les mairies, les bibliothèques, les EHPAD ou encore des structures privées de l'économie sociale. Le plan prévoit un financement de 50 000 euros par conseiller numérique pour les collectivités locales, 40 000 pour le privé, de quoi financer 2 ans de contrat au SMIC. Reste à savoir si les contrats seront pérennisés ou si les sommes allouées permettront aux structures de trouver les bonnes personnes et plus globalement, quel intérêt elles auront à se lancer dans de tels projets. Deuxième axe, 40 millions seront dédiés à l'amélioration des lieux d'accueil, c'est-à-dire les espaces de médiation numérique ou les tiers-lieux. Enfin, 10 millions seront consacrés à des outils pour les aidants, comme les travailleurs sociaux ou les employés de mairie qui accompagnent les gens dans leur démarche numérique. En pratique, cela passera par le déploiement de l'outil Aidant Connect, déjà lancé dans 13 territoires. Il permet de se faire aider dans ses démarches en ligne tout en ayant ses données personnelles protégées. Si l'effort pour former de nouveaux professionnels est important, aujourd'hui l'une des grandes difficultés reste de toucher les personnes qui en auraient besoin. C'est bien de cela et de la capacité à collaborer avec les travailleurs sociaux que dépendra l'amélioration de la situation.
Alors que ces 2 dernières années, les violences policières auront régulièrement été portées à la une de l'actualité, fallait-il que le législateur muscle davantage encore son arsenal sécuritaire? Voilà peu ou prou résumé la polémique alors que doit être débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée le projet de loi sur la sécurité globale. En l'occurrence, une disposition en particulier suscite aujourd'hui une vive controverse, l'article 24 qui instaure un nouveau délit de diffusion d'images des forces de l'ordre en intervention avec intention de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique, délit qui sera puni 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Alors évidemment, cette question des violences policières, à laquelle on pourrait aussi ajouter celle des comportements militants, est à replacer dans l'histoire récente des mouvements sociaux, et tout particulièrement celui des Gilets jaunes, nés il y a 2 ans, jour pour jour. Que reste-t-il aujourd'hui de cette colère en pleine pandémie de coronavirus? État d'urgence oblige, les derniers irréductibles ont été chassés des derniers carrefours, mais ont-ils pour autant disparu? C'est ce que nous allons tâcher de savoir avec notre invité. Mais juste avant, nous avons essayé de comprendre ce qu'il restait aujourd'hui des promesses économiques, sociales faites par Emmanuel Macron pour répondre justement à cette colère exprimée par les Gilets jaunes. Élément de réponse avec Anne-Laure Jumet.
Le pouvoir d'achat, c'était l'une des principales revendications des Gilets jaunes. Et pour y répondre, Emmanuel Macron avait notamment annoncé une baisse de l'impôt sur le revenu de l'ordre de 5 milliards d'euros. Promesse appliquée depuis le 1er janvier. Elle concerne 90% des ménages imposables. Pour financer cette mesure, il faudra travailler plus longtemps, avait dit le chef de l'État. Cet horizon-là, en revanche, est au point mort avec le report de la réforme des retraites pour cause de pandémie. Les retraites, justement, Emmanuel Macron avait promis une pension minimum de 1 000 euros pour une carrière complète. Depuis, cette annonce a été confirmée pour une application en 2022, mais on ne sait pas si ce calendrier est maintenu avec le report de la réforme des retraites. Autre engagement, en direction cette fois des familles monoparentales. Un système géré par la CAF pour prélever les pensions alimentaires impayées. Ça a pris du temps, mais le dispositif vient d'être lancé début octobre. Enfin, Emmanuel Macron avait annoncé que 150 citoyens seraient tirés au sort pour faire des propositions sur la transition écologique, afin notamment de trouver des alternatives à l'augmentation de la taxe carbone, celle qui avait déclenché la colère des Gilets jaunes. La Convention citoyenne sur le climat a fait ses propositions en juin dernier, mais depuis, certaines ont été balayées par des membres du gouvernement. L'éco-contribution sur le transport aérien ou encore le moratoire sur la 5G. La plupart des mesures doivent tout de même être reprises dans un projet de loi annoncé pour le mois prochain.
Voilà, et pour analyser donc le 2e anniversaire de ce mouvement de colère, invité de la rédaction aujourd'hui, Magali Della Souda, chargée de recherche au CNRS, coordinatrice de l'enquête intitulée « Gilets jaunes ». Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Pierre Neveu. Bonjour,
bonjour
Pierre.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, madame, pouvez-vous nous dire ce qu'il reste, ou pas d'ailleurs aujourd'hui, de ce mouvement des Gilets jaunes 2 ans et une pandémie plus tard?
Je crois que vous avez très bien fait en introduction de ce sujet de rappeler l'état d'urgence dans lequel nous sommes aujourd'hui et la suspension de fait en raison de cette crise sanitaire extraordinaire. Des libertés fondamentales. Et donc, fatalement, effectivement, les mobilisations visibles dans l'espace public des Gilets jaunes, aujourd'hui, elles sont suspendues ou elles sont sporadiques, mais elles ne peuvent plus avoir la même ampleur que lors des actes ritualisés des mois et des années précédentes. Néanmoins, pour autant, les Gilets jaunes existent encore. Ils sont soit visibles sur la toile, des réseaux qui ont été constitués eh bien perdurent, et ces réseaux entre guillemets dormants sont susceptibles, dans le contexte actuel, d'être réactivées si une occasion se présente.
Qui sont les gilets jaunes de 2020? Parce qu'il y a deux ans, s'exprimait la colère de la France des ronds-points, la France des oubliés. Est-ce que les oubliés n'ont pas le visage aujourd'hui de nos commerçants, de nos hôteliers, de nos restaurateurs, de tous ceux qui vivent dans le monde de la culture, de l'événementiel? Est-ce que ce sont eux aujourd'hui les gilets jaunes?
Alors... D'abord, il faut rappeler qu'effectivement, le mouvement, il a beaucoup changé entre le 17 novembre 2018, où il y avait les catégories que vous citez, parmi les personnes qui revêtaient un gilet jaune et on fait partie des actions d'occupation, de blocage ou en manifestation. C'était ça la spécificité de ce mouvement, d'avoir des classes populaires, la petite bourgeoisie, et réunis dans ces cortèges et ces actions-là. Ça n'a jamais cependant été le gros des troupes, puisque on avait une surreprésentation des ouvriers dans ce mouvement, des quelques catégories d'employés aussi, puis de certains secteurs, je pense aux hommes, avec une surreprésentation des travailleurs de la logistique, qui aujourd'hui eux travaillent pendant le confinement, parfois dans de très mauvaises conditions, et les professions du CAIR, aide à domicile, aide-soignante, infirmière, là aussi, depuis la pandémie, sont aux premières loges pour lutter contre ce Covid. Et donc, elles ne sont plus ou ils ne sont plus nécessairement dans la rue, mais c'était eux les gilets jaunes. Alors effectivement, aujourd'hui, la crise sanitaire que nous connaissons, elle a des effets économiques sur les professions et les groupes sociaux dont vous parlez. Et effectivement, se pose la question des formes de contestation qui peut leur rester pour se faire entendre.
Quel mot d'ordre aujourd'hui peut rassembler les gilets jaunes de 2020? L'état d'urgence sanitaire, la privation de liberté, toutes les questions autour de l'injustice?
Oui, je crois que finalement, le fondement qu'il y avait de la revendication, cette mise en crise profonde donc des inégalités sociales, cette mise en crise profonde de la représentation, c'est-à-dire que les gilets jaunes voulaient être que le peuple, que les citoyens soient plus écoutés, qu'ils participent davantage à la décision politique, finalement que les premiers concernés puissent avoir leur mot à dire sur les politiques décidées au sommet, dans cette vision-là, il reste d'actualité aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes dans un contexte économique qui est dramatique et qui va plonger dans la très très grande difficulté des secteurs qui jusqu'alors étaient épargnés, si vous voulez, et qui avaient fait sans l'État et qui aujourd'hui n'ont plus moyen de faire autrement que d'y recourir. Et donc cette question de la justice sociale, des termes de l'égalité et de l'économie morale dans laquelle nous sommes, ils restent posés, ils le sont d'une manière extrêmement aiguë. De la même manière, la demande de RIC, qui avait été portée très très fortement et qui l'est toujours par les gilets jaunes qui restent actifs, qui ne se sont pas retirés du mouvement mais qui continuent à militer sous d'autres formes, elle est très présente. Quand on restreint des libertés fondamentales comme c'est le cas aujourd'hui, il faut donner aux citoyens, soit via leurs représentants, via le Parlement, soit via d'autres dispositifs, une convention citoyenne par exemple, mais d'autres dispositifs de participation, il faut leur redonner des libertés, il faut équilibrer là ce qui est en train de se passer et qui est extrêmement grave en termes de transformation des pratiques démocratiques.
Magali Della Souda, ce sera ma dernière question. Il y a deux ans, les Gilets jaunes exprimaient leur défiance à l'égard des élites, qu'ils soient politiques, journalistes. Est-ce que la crise sanitaire que nous traversons, avec ces thèses complotistes qui ressurgissent en ce moment, est-ce que cela peut être un facteur de mobilisation en ce moment, en 2020?
Ça peut être un élément qui va participer à un climat de tension. Il y a une mise en crise, effectivement, mais ce qui mettra le feu aux poudres, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les débats sur ce documentaire Hold Up, ils existent, ils sont fréquents. Ce sont des éléments qui nourrissent, en tout cas, des discussions, qui peuvent nourrir manifester, être le témoignage de cette mise en crise profonde.
Merci Magali Della Souda, chargée de recherche au CNRS, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pierre Neveu. Dans un rare mouvement commun, les syndicats de tous les personnels des établissements de Seine-Saint-Denis, enseignants, infirmières scolaires, assistantes sociales, appellent aujourd'hui à une journée de grève afin de réclamer un plan de rattrapage pour les services publics de leur département, le plus pauvre de France métropolitaine. Le mois dernier, plusieurs d'entre eux avaient déjà brossé c'est un tableau apocalyptique de la situation de leurs écoles, lycées, collèges, dû notamment à un manque structurel de moyens, à la fois humains et matériels. Une situation aujourd'hui aggravée, Hakim Kasmi, par l'épidémie de Covid-19.
Actuellement, en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, il manque 200 enseignants par jour, de l'aveu même du rectorat. Une situation qui s'est dégradée avec la crise liée au coronavirus. Dans ces conditions, difficile donc de respecter le protocole sanitaire dans les écoles, comme nous l'explique Marie-Hélène Plard, secrétaire départementale du SNUBP 93.
À partir du moment, si vous voulez, où on accueille tous les enfants au même moment, s'il n'y a pas tous les adultes présents pour pouvoir les accueillir, à partir de ce moment-là, les enfants sont répartis dans les autres classes et de fait, le nombrassage qui est mis en place par les écoles n'est plus respecté. Voilà, les groupes classes se mélangent et on n'a pas d'autre solution pour pouvoir accueillir les enfants.
Dans la mobilisation étaient également présents des assistantes sociales, des agents territoriaux, mais aussi des infirmières scolaires qui ont vu leur consultation bondir de 30%. Il faut dire que depuis le premier confinement, les séquelles psychologiques et physiques sont en hausse, comme nous le précise Carole Pourvendier, secrétaire générale adjointe du SNICS, premier syndicat des infirmières scolaires.
Tout d'abord parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, que les élèves, après le confinement, ont eu des pathologies anxieuses, psychologiques, et on voit depuis le mois de septembre 20 à 30% de consultations en plus en ce moment.
Un manque d'effectifs qui risque de s'accroître dans les prochains jours, puisqu'elles ont appris ce matin qu'elles pourraient être réquisitionnées sur la base du volontariat pour venir en aide dans les hôpitaux.
Nous l'évoquions déjà ce matin, un campement de migrants nichés sous une bretelle d'autoroute en Seine-Saint-Denis a été démantelé ce matin. Au total, 2400 exilés ont été évacués. Alors c'est en réalité le 65e démantèlement de grande ampleur mené en Île-de-France depuis 2015, un cycle sans fin donc, et qui laisse aussi entendre qu'un nouveau campement informel et insalubre devrait inéluctablement refaire surface rapidement, ou quand l'impasse est aujourd'hui aussi réel que dramatique pour ces milliers de déracinés. Illustration encore à Calais, principal point de passage des ferries entre la France et le Royaume-Uni, où les autorités doivent également gérer, comme partout ailleurs, la mise à l'abri des personnes en pleine pandémie, comme l'explique Michel Tournaire, sous-préfet du Pas-de-Calais, joint au téléphone par Cécilia Arbonin.
Nous avons reproduit en période de confinement le dispositif de mise à l'abri tel qu'on l'avait imaginé au printemps dernier. Nous organisons des départs volontaires depuis Calais vers des centres de mise à l'abri dans des hangars chauffés. Nous avons mis en place un système d'accès à l'eau et de douche qui fonctionne du lundi au vendredi. Et troisième élément, l'État prend à sa charge financièrement la distribution de repas deux fois par jour sur Calais. Et nous avons ainsi proposé depuis deux semaines, depuis la semaine du 3 novembre, 320 places de mise à l'abri et nous avons eu 226 départs effectifs. Nous avons organisé avec Médecins du Monde et la Croix-Rouge deux fois par semaine des maraudes sanitaires sur les campements, de prise de température avant la montée dans les bus et de respect de la distanciation sociale et de distribution de masques. Chaque centre de mise à l'abri dispose donc de capacités permettant d'isoler des personnes qui présenteraient des symptômes légers de Covid-19.
Voilà, Michel Tournaire, sous-préfet du Pas-de-Calais, joint au téléphone par Cécilia Arbonin.
12h50 sur France Culture, la suite et la fin de votre journal, Thomas Cluzel.
C'est l'une des plus importantes organisations de jeunesse des États-Unis, les Boy Scouts, créée en 1910 et qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'adhérents. Or voilà qu'il y a 8 ans, des soupçons d'abus sexuels sur mineurs ont été révélés par la presse. Les victimes avaient jusqu'à hier soir pour se faire connaître si elles voulaient bénéficier du fonds d'indemnisation mis en place. Et au final, Grégory Philippe, ce sont plus de 80 000 victimes présumées d'abus sexuels qui se sont manifestées.
Gil Gale fait partie des milliers d'anciens Boy Scouts qui ont accepté de parler. Sur la chaîne CBS, le quinquagénaire témoigne. Il a été abusé pendant 4 années jusqu'à l'âge de 11 ans. Après ça, j'ai sombré dans l'alcool et la drogue jusqu'à mes 32 ans. J'ai pensé aussi au suicide. Ça m'a vraiment détruit. Comme lui, plus de 80 000 victimes présumées se sont rapprochées de ce fonds d'indemnisation créé il y a 10 mois après le dépôt de bilan de Boys Scouts of America, l'organisation dont les actifs sont estimés à environ 1 milliard de dollars aux États-Unis, a préféré se déclarer en faillite pour geler les milliers de demandes de dédommagement. C'est sans doute le plus grand scandale d'abus sur des enfants aux États-Unis, dit l'avocat Michael Pfau, qui représente des centaines de victimes, et dans le monde. Le problème, ce ne sont pas quelques brebis galeuses, quelques erreurs, non, c'était des fautes systématiques, du haut en bas de la hiérarchie. Si les plaintes sont aussi nombreuses, c'est aussi parce que dans plusieurs États américains, les délais de prescription pour des agressions pédophiles ont été rallongés et que les victimes présumées, pour certaines adultes aujourd'hui, peuvent réclamer justice plusieurs années après les faits.
Toujours aux États-Unis, alors que l'épidémie ne cesse de gagner du terrain, le président sortant refuse toujours de coopérer avec l'équipe de son successeur, d'où la réaction hier de Joe Biden qui a haussé le ton. Davantage d'Américains risquent de mourir du Covid si l'administration Trump continue de bloquer la transition. Une rupture, là aussi davantage qu'une transition, alors que les discussions entre Londres et Bruxelles sur un accord commercial post-Brexit ont repris hier. La pression du calendrier suscite plus que jamais des doutes sur les chances de parvenir à un accord dans les temps. Il reste moins de 50 jours avant le 31 décembre, date à laquelle s'achèvera la période de transition post-Brexit, pendant laquelle le Royaume-Uni cessera d'appliquer les normes européennes. Or, sans traité commercial, les deux parties courent le risque d'un nouveau choc économique qui viendrait s'ajouter à l'épidémie de coronavirus. De la difficulté de s'entendre, y compris lorsqu'on appartient a priori à la même famille. Hier, la Hongrie et la Pologne ont mis leur veto à l'adoption du plan de relance de l'UE, pourtant laborieusement approuvé par les 27, c'était en juillet dernier. Budapest et Varsovie, qui revendiquent haut et fort leur illibéralisme, refusent toutefois que les versements des fonds communautaires soient conditionnés au respect de l'état de droit, comme cela est théoriquement prévu à compter de l'an prochain. Une décision qui ouvre donc une nouvelle crise au sein de l'Union, et ce en pleine deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, après l'échec d'hier et 2 jours avant un sommet officiellement consacré à la lutte contre la pandémie, la recherche d'une solution sera encore discutée aujourd'hui lors d'une réunion des ministres des Affaires européennes, car si les ambassadeurs de l'UE ont certes adopté hier à la majorité qualifiée l'incorporation de ce mécanisme sur l'état de droit, ce vote en réalité n'est pas définitif, puisque le dernier mot revient au ministre des États membres. Reste à savoir désormais, Pierre, avec quels moyens de pression donc pour faire plier en l'occurrence les deux récalcitrants.
En tout cas, les Européens n'en sont pas encore à dire qu'ils ont déjà tout essayé pour fléchir la Hongrie et la Pologne, mais ils affirment tout de même que recenser les moyens de pression, ça serait faire de la politique fiction. Il faut dire que de nombreux dirigeants européens ont déjà eu des discussions en tête-à-tête ou des coups de téléphone avec les dirigeants polonais et hongrois, sans que cela apporte de résultats, puisque les deux pays ont mis leur veto hier. Le mécanisme sur l'état de droit est passé à la majorité de 25 sur 27, mais polonais et magyars ont bloqué la décision sur ce que le jargon appelle les ressources propres, ces fonds qui doivent permettre d'alimenter directement le budget septennal de l'UE. C'est donc pour l'instant un vrai blocage, parce qu'on est face à un ensemble de plans budgétaires interdépendants, un paquet à l'équilibre précaire quasiment impossible à rouvrir. Remettre en cause l'état de droit en promettant d'éventuelles garanties à l'Europe centrale, cela mécontenterait le Parlement européen, ça mécontenterait aussi les parlements nationaux qui doivent ratifier justement la partie dite des ressources propres, en particulier dans le nord de l'Europe. En réalité, le principal problème, c'est que ni la Pologne ni la Hongrie n'ont fait de contre-proposition. Puisque ces pays dénoncent un mécanisme conçu à leur encontre, on pourrait imaginer une définition plus précise de l'état de droit, par exemple, mais tous ici se refusent à spéculer tant que les deux pays n'ont pas abattu leurs cartes. Et puis, il faut bien le dire, les réunions des ministres aujourd'hui, des chefs d'État et de gouvernement jeudi, se tiennent en visioconférence, un format dont il est désormais prouvé qu'il n'est pas propice à des négociations efficaces.
Merci Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. Si certains se demandent toujours, 2 semaines pourtant après avoir élu un nouveau président, président. Quand le candidat sortant cessera-t-il de nier sa défaite pour assurer enfin un transfert ordonné du pouvoir au Pérou? Là-bas, la désignation d'un troisième président en seulement une semaine relève d'un scénario non moins ubuesque. Hier, après une semaine de chaos politique qui aura vu la destitution du président, suivie de celle de son successeur, le Parlement a fini par élire un septuagénaire novice en politique, le député centriste Francisco Sagasti, surnommé Don Quichotte, chef de l'État par intérim. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore voilé du nord de la Loire jusqu'à la Lorraine et l'ouest de la Franche-Comté. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
12h56 sur France Culture, l'heure de vous retrouver Olivia Gesbert pour la grande table des idées.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, avec mes invités à distance, mais bel et bien là. Ils s'appellent Pierre Bayard et Thomas Huchon et on est ensemble jusqu'à 13h30. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, fausses nouvelles et théories du complot, la guerre des récits. Avec notre invité Pierre Bayard, il est professeur de littérature française à l'université Paris 8, psychanalyste, auteur de « Comment faire parler des faits qui ne se sont pas produits chez Minuit ». Un essai littéraire, sorte de réhabilitation enjouée, pied de nez de ces fausses informations tant critiquées. Dans ce livre, Pierre Bayard démontre qu'elles sont aussi de puissants stimuli de l'imagination, des moteurs aujourd'hui encore de création comme de découvertes scientifiques. Bonjour à vous Pierre Bayard.
Bonjour.
Et vous êtes aujourd'hui avec nous en dialogue avec Thomas Huchon, journaliste, documentariste, professeur à Sciences Po, auteur notamment de Infodémique, un documentaire à voir sur le site de Spicy. Bonjour Thomas Huchon.
Bonjour.
Bonjour. Un plaidoyer, le vôtre Pierre Bayard, qui tombe à pic à un moment où les passions se déchaînent, des passions controversées autour du documentaire Hold Up, film viral qui entend démontrer en près de 3 heures les mensonges dans la gestion de la crise sanitaire, qualifié de complotiste ce film, de complotiste par la majorité et par les fact-checkers, de documentaire par les autres. En tout cas, on va revenir sur ce film, les vérités et les contre-vérités qu'il entend dénoncer. Mais d'abord, la fiction, les fausses informations et surtout comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Votre livre, Pierre Bayard, défend le droit de s'exprimer, le droit d'avoir et de donner un avis sur des faits qui ne se sont pas trop produits. Est-ce que vous avez eu le sentiment en écrivant cet essai littéraire, cette fiction, d'être aussi à contre-courant, à contre-sens de l'époque ?
Oui, évidemment, puisque le livre repose sur un paradoxe. Hein. Bon, je voudrais quand même préciser qu'il y a évidemment une dimension humoristique dans ce que j'écris. Le livre repose sur un paradoxe, puisque d'une manière générale, on attribue à ce que j'appelle des mauvaises informations, plutôt que des fake news, un caractère nécessairement péjoratif. Alors que j'essaye de montrer que ces fausses informations peuvent avoir dans certaines circonstances une qualité, par exemple, de stimulation de l'imaginaire. Et surtout qu'elles sont inévitables, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui à propos de ces fake news, dont je pense qu'elles n'ont rien, malheureusement, de nouveau, je pense que l'être humain est un être de récit, et qu'il y a en nous ce que j'appelle une pulsion narrative, c'est-à-dire un irrépressible besoin de raconter des histoires. Donc j'essaie de cerner des cas dans lesquels, contrairement à ce qu'on raconte, ces fausses histoires peuvent avoir certains bénéfices psychiques ou scientifiques ou littéraires.
Alors beaucoup ont joué avec le vrai d'ailleurs pour concevoir des œuvres. C'est une forme qui n'est pas nouvelle, vous venez de le rappeler, ni moderne. La fable est aussi ancienne que l'être humain, rappelez-vous, écrivez-vous Pierre Bayard. En littérature, la vérité n'est pas un dogme, ne devrait pas l'être.
Alors, dans le cas de la littérature, hein, je défends évidemment le droit de l'écrivain, d'écrivaine à inventer autant qu'il le souhaite, hein, et évidemment à prendre les plus grandes libertés possibles avec le réel. Un grand nombre des cas que j'examine, ce sont des cas d'écrivains, hein, qui, eux, ont pris les plus grandes libertés possibles, comme Chateaubriand, comme Saint-Jean-de-Perse, comme Anaïs Nin ou d'autres.
Alors, exemple, justement, Chateaubriand,
évidemment,
juste
quand on
Pierre Bayard, donnez exemple avec Chateaubriand.
C'est une sorte de professionnel de la fausse information, puisque non seulement il en utilise beaucoup dans ses mémoires, mais même il la théorise. C'est une sorte de théoricien de la fausse information. Je rappelais comment, alors qu'il est invité à Argos, en Grèce, le guide lui propose de descendre plus près des ruines pour les observer. Il a cette réponse superbe, ah non, moi je vois les choses en perspective. Et cette vue d'ensemble qu'il défend, il va y recourir de manière assez fréquente. Je prends un autre exemple dans le livre qui est celui de sa rencontre avec le président des États-Unis, George Washington. Rencontre qu'il a raconté à plusieurs reprises dans son œuvre. Et là, ce mot, le président ne se souvient probablement pas de notre rencontre, ce qui est d'autant plus vraisemblable que les historiens ont montré qu'elle ne s'était jamais produite. Mais il a besoin de cette rencontre pour mettre en scène une confrontation entre la Révolution française et la Révolution américaine. Et donc, il l'invente de toutes pièces.
Alors, avec vous, on peut, Pierre Bayard, lire comme dans un livre ouvert. D'ailleurs, des livres, vous en avez lu énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette réflexion sur les fausses informations et la vérité, en littérature notamment, vous intégrez aussi la psychanalyse. Comment elle s'intègre à votre réflexion ?
Avec cette idée que nous avons ce que j'appelle dans le livre une pulsion narrative. Je rajoute une pulsion aux grandes pulsions freudiennes, orale, anale, phallique, c'est-à-dire un besoin de raconter, par exemple pour mettre de l'ordre dans notre vie, pour nous penser nous-mêmes comme ayant une certaine unité, avec une forme de narcissisme. Le but d'une psychanalyse, c'est d'une certaine manière d'écrire sa propre histoire avec certains caractères légendaires pour arriver à être soi, à coïncider avec soi. Et donc, si l'on tient cette hypothèse de la pulsion narrative, de notre besoin de raconter, on ne peut pas considérer que les grands récits dont on parle aujourd'hui soient nouveaux. Moi, je dis à un moment que l'homme et la femme des cavernes, déjà, avec un grand renfort de gestes, racontaient le soir à la veillée leur chasse et leur pêche pour se mettre en valeur, pour amuser l'autre, pour coïncider avec soi. Et la psychanalyse intervient donc pour vanter un certain usage résilient du récit.
Thomas Huchon, vous êtes avec nous, vous écoutez, j'imagine, religieusement ce que nous dit Pierre Bayard. Est-ce que vous, comme documentariste, vous avez aussi éprouvé ce besoin de alors non pas de fiction peut-être, mais de cette pulsion narrative, c'est-à-dire ce besoin de récit?
Ben écoutez, oui, quand on fait des documentaires, c'est une manière de raconter l'actualité, de raconter notre perception de la réalité, qui essaye au contraire, de donner au public le moyen de juger par lui-même, c'est-à-dire de juger s'il s'agit du vrai ou s'il s'agit du faux. Donc on n'est pas exactement dans la même démarche que celle qui est critiquée de manière positive par Pierre Bayard, mais effectivement,